des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. Parcours reçoit pour vous aujourd'hui le créateur de l'histoire du climat, Emmanuel Leroy-Ladurie, membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur émérite au Collège de France, l'un des historiens contemporains les plus féconds. Ses curiosités, dit-on, sont universelles. Il a publié de très nombreux livres qui ont fait date et qui ont connu un grand succès. Le dernier, paru chez Fayard, étant « Histoire humaine et comparée du climat, canicules et glaciers des 13e au 18e siècle ». Emmanuel Leroy-Ladurie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né un 19 juillet 1929 dans le Calvados, à Moutier-en-Cinglé. Alors, parlez-nous de ce Moutier-en-Cinglé.
Les Moutiers-en-Cinglé, le Cinglé est un petit pays de forêt dans le Calvados. Et les Moutiers, c'est un ancien monastère, un Moutier. Et c'est devenu un village en 4 ou 5 hameaux, très sympathique, où mes parents étaient propriétaire et agriculteur, c'est-à-dire que j'ai une formation agricole. Je l'ai quittée, mais enfin j'ai gardé une petite maison ou une grande maison et j'y reviens assez régulièrement.
Les souvenirs justement accrochés à cette maison et à votre enfance?
Eh bien, ils sont importants. C'est un peu la région que décrit Flaubert dans Boulevard et Pécuchet. C'est le rebord est de l'Orne. Nous sommes à la limite du bassin parisien et du massif armoricain. Alors, les terres de mes parents étaient plutôt dans le massif armoricain, donc plus pauvres, mais enfin ils se sont quand même débrouillés. Puis nous avons vécu la grande épopée du débarquement.
Vous aimiez participer à ces travaux agricoles, donner
oui,
la main?
Oui, parce que nous avons encore eu les techniques agricoles du XVIIIe siècle. Enfin, il y avait certaines modernisations. Il y avait les moissonneuses dites lieuses, mais pas encore les moissonneuses batteuses, mais les charrettes en bois. Jusque la fin de la guerre, et même un tout petit peu après, étaient encore ces très belles charrettes à deux roues du XVIIIe siècle, ce qu'on appelait le banneau, c'est-à-dire c'est un mot celtique, la bagnole. Vous vous rappelez de ce que disait le président Pompidou, que voulez-vous, les Français aiment la bagnole. Eh bien, c'est un mot celtique. Nous avions donc des banneaux, qui étaient des charrettes à deux roues. Et on battait, là, c'est pas du XVIIIe siècle, on battait avec la batteuse dans la ferme. Mes parents distillaient du Calvados et mon père, qui a été député du Calvados, a voté à une voix contre 600 pour le maintien du privilège des bouilleurs de crue. Enfin, ma mère n'était pas très contente, évidemment.
Vous étiez au sein d'une famille nombreuse ou...
Oui, enfin, nous étions, mes grands-parents avaient 7 enfants chacun, mais nous étions 4 enfants, oui. J'ai malheureusement perdu un frère dans un accident d'avion, mais enfin, nous avons survécu au moins au débarquement, qui était un peu dur.
Et cette culture celtique dont vous nous parliez il y a un instant, qu'en gardez-vous en mémoire?
Nous sommes plutôt vikings que celtes. Nous avions, non loin de là, nos ducs avaient encore de vieux vikings qui venaient leur apprendre le norvégien, qu'ils avaient tendance à oublier, nos ducs de Normandie. Mais enfin, la culture normande est tout de même une culture française. Et au fond, nous avons deux grands moments, c'est la conquête par les Vikings, effectivement, et puis la conquête de l'Angleterre, où nous prétendions que nous avions civilisé les Anglais. Enfin, je crois qu'ils étaient déjà un petit peu civilisés avant, puisque les églises saxonnes d'avant la conquête sont assez jolies. Mais tout ça a été évidemment effacé un peu par la mémoire de cet événement du 6 juin 1944. Du reste, aujourd'hui, nous sommes le 6 juin, qui est un jour de deuil aussi pour moi, puisque j'ai perdu 5 membres de ma famille dans les bombardements de Corse ce jour-là.
Des heures lourdes, des heures.
Enfin,
de
des heures joyeuses, si on veut, parce que on n'était pas libérés tout de suite, mais tout de même, c'est quelque chose qui pèse sur moi. Oui,
mais avant de connaître ces moments de joie de la libération, il a fallu passer par ces moments durs.
Non, je veux dire que c'était la famille Dufort, oui, que j'aimais beaucoup. Ils ont été tués tous les trois, père, mère et enfant. C'est quelque chose qui pèse sur
moi. Où étiez-vous pendant ces heures de
combat? J'étais chez mes parents, alors on est allé chercher mon frère à Caen en bicyclette. Alors il y a un Allemand, jeune Allemand, qui avait dû passer la nuit dehors, qui m'a volé mon vélo, il m'a menacé gentiment avec son fusil, mais enfin, c'était plutôt sympathique. Alors on a vu un type de la Gestapo, on lui a dit, écoutez, courez après le voleur, mais enfin, Enfin, voler un vélo, c'est grave.
Et le goût pour les études, vous est venu comment? Toujours?
Ah ben, toujours, oui. J'avais une mauvaise écriture, mais je n'ai pas été à l'école primaire. J'étais formé par ma mère, puis par des demoiselles que mes parents, payaient pour ça. Et puis alors, je suis entré... j'avais une très mauvaise écriture, ça m'est resté. Je n'avais pas l'écriture de l'école primaire. Et puis, je suis entré en 8e au collège Sainte-Marie de Caen, qui était le collège de la bourgeoisie locale, hein, catholique. Et je revois notre professeur de 7e, nous annonçant, je crois que c'est l'invasion de l'Autriche par Hitler. Je devais être tout jeune. Et en 6e, j'ai commencé à apprendre le grec, que je n'ai su que nettement que plus tard. Et en 5e, j'étais assez malheureux, j'avais cette mauvaise écriture. Et puis, il y a eu la guerre, l'exode. Nous sommes partis en exode, on est revenus ensuite. Et puis là, les Allemands occupaient le collège Sainte-Marie de Caen. Donc j'étais au collège Saint-Joseph de Caen, qui était les frères écoles chrétiennes, qui étaient pour les enfants, disons, du peuple, en tout cas des fermiers, des paysans. Et étant moi-même, comme aurait dit Pierre Bourdieu, de culture bourgeoise, je brillais de tous mes feux. J'étais le premier de la classe. Et donc je me suis habitué.
Et comment s'est passé cet exode pour le petit garçon que vous étiez à l'époque?
J'ai eu deux exodes quand même, c'est-à-dire celui de 40. Où on est parti. Alors, mon père est resté. Mon père n'était jamais là. Il était toujours, je sais pas, il était maire du village. Il est resté au village. Et avec ma mère, ma grand-mère, pour qui c'était sa troisième guerre, elle a eu quatre guerres, ma grand-mère, 70, 14, 40, 44, je trouve que c'est beaucoup pour une grand-mère. Et nous sommes partis à Montignac, et c'est là qu'on a découvert Lascaux, la grotte de Lascaux. Ça aurait pu être moi, c'est un enfant de mon âge. Bon, c'est pas moi qui l'ai découverte. Et puis, on est revenu. Alors, j'ai vu mon premier Allemand sur un pont de la Loire, et je pourrais dire que j'étais résistant comme De Gaulle, évidemment, j'avais 11 ans, mais ma mère m'a acheté la 6000 et j'ai commencé à apprendre l'allemand, et ça fait 50 ans que je fais de l'allemand, j'arrive à bien le savoir, mais enfin, je me rappelle, Der Tee ist gut.
Et comment se déroulait la vie pendant l'exode? On était accueillis par des gens qu'on ne connaissait pas?
Pas trop mal, ma mère devait avoir un peu d'argent, je pense, elle avait un sac sous sa combinaison avec l'argent, et on était chez M. Garrigou à Montignac, je me souviens. Je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait. Alors je revois, il y a eu l'appel de De Gaulle. Alors il y avait une dame qui était devenue une amie de mon oncle, amie peut-être intime, j'en sais rien, qui me dit « Ah, vous avez vu ce général De Gaulle, qu'est-ce que c'est que ce type qui est contre le maréchal Pétain ?» Je me souviens bien de ça, mais moi j'ai rien entendu du tout.
Et ce sont des souvenirs qui restent très précis dans la mémoire,
ça m'est
brouillés,
resté,
effacés.
Oui, non, ça m'était précis. Donc je peux dire que j'ai entendu parler du général de Gaulle un jour ou deux après, parce que la presse française en parlait. Et puis je me souviens de Marcel Kébir, la destruction de la flotte française par les Anglais. Alors là, on était très pétiniste, évidemment. Et puis mon père hésitait à partir en Angleterre, suivre le maréchal Pétain. Finalement, il a suivi le maréchal. Comme Mitterrand, il est devenu résistant, mais plus tard.
Quels étaient vos atouts quand vous étiez ce jeune garçon étudiant? La mémoire, l'imagination? Quel genre de petit garçon étiez-vous? Studieux?
Écoutez, oui, moi, c'est pas l'intelligence, j'en avais pas tellement, mais c'est plutôt. Vous savez, maintenant, la mémoire, c'est devenu la tarte à la crème, je trouve ça légèrement ridicule. Mais enfin, c'est vrai, on disait, ce type, il n'est pas malin, mais il a de la mémoire. Alors, maintenant, la mémoire, c'est devenu. Je trouve ça grotesque. Ce qui compte, c'est l'histoire, c'est ça qui est sérieux. Donc, enfin, j'étais un gros travailleur, oui. J'avais quand même beaucoup de facilité. Et, bon, nous étions élevés par les frères écoles chrétiennes qui éduquaient les enfants du peuple, qui étaient de bons éleveurs d'enfants. Enfin, ils mélangeaient un peu, ils confondaient Alfred de Vigny, Alfred de Musset. Bon. Alfred de Vigny, un cochon, non, c'était Alfred de Musset, qui était un cochon, en principe. Mais enfin, on était bien formés, bien suivis. Puis ma mère m'a assez formé. Elle n'aimait pas Bismarck, elle n'aimait pas Frédéric II. Elle m'a appris ce qu'on appelait l'histoire sainte. C'est bien, j'ai une assez bonne formation sur la Bible. On dit toujours que les jeunes catholiques ne connaissent pas la Bible. C'est complètement faux. Moi, je peux vous parler de Samson et Dalila, de je ne sais qui, Goliath, David, etc. Et puis après, au collège. Et là, mon père était plutôt une image, une espèce de colosse familial qui servait de modèle. Mais il ne s'est jamais tellement occupé de mes études. Et puis alors, mon père était ministre de Vichy, ce qui lui donnait beaucoup de prestige sur le moment, mais après, il nous a fait quelques histoires. Après, il est parti dans un maquis, enfin, c'est une histoire familiale compliquée.
Et vous-même, comment vous êtes-vous retrouvé dans cette...
J'étais pétiniste en 1942, je me rappelle, j'avais 12 ans, en fait. On avait la Francisque. Et puis après, les frères écoles chrétiennes, qui étaient pétinistes en 1942, sont devenus... Oui, plus ou moins résistant en 1944, c'est comme une bonne partie de la France. Et ils ont caché, ils cachaient non pas, semble-t-il, des Juifs, mais des Alsaciens, des soldats allemands d'origine alsacienne qui s'étaient tirés de la Wehrmacht, vous voyez. On sentait bien là. Alors.
Vous aviez le sentiment, l'intuition de toutes ces choses qui se passaient. Vous étiez très jeune.
Ben écoutez, moi j'ai cru à la. Ah oui, parce que je suivais. Dès 39, j'avais 10 ans, mais on était tellement. Et puis alors, en mai, en juin, juillet 42, moi je croyais à la victoire allemande. Les Allemands étaient. Je sais pas, j'étais pas tellement pour, mais enfin, ils avançaient dans le sud. Et alors j'ai demandé à mon père, qui était pourtant ministre de Pétain, je lui ai dit, ben alors, je vous voyais mon père, alors papa, est-ce que les Allemands vont gagner? Non, il m'a dit, ne crois pas ça. Ce qui est intéressant de voir que quelqu'un qui était ministre de Vichy ne croyait pas spécialement à la victoire allemande, alors que d'autres y croyaient. Et puis alors, évidemment, je crois que le grand tournant, pas pour moi tellement, mais c'est surtout novembre 42, quand Stalingrad est encerclé par les Russes. Mais enfin, en même temps, je sentais bien que mon père aurait des embêtements. Je l'ai senti peu à peu, malgré sa résistance dans le maquis, hein, d'Orléans, qu'il aurait des embêtements par l'épuration. En fait, c'était donc un peu mixte. Mais alors, après, on a fait un deuxième exode, mais dans l'ordre, chez mon grand-père, à cause du débarquement. Alors, on n'a pas très malin, on s'est mis juste sur le bord de la poche de falaise. Là où, paraît-il, là, M. Georges Marchais était resté. Enfin, on ne sait pas trop s'il est resté ou parti en Allemagne, ça, puisqu'il était d'un village, du coup.
Lorsque les choses n'allaient pas bien, est-ce que vous aimiez vous confier, vous épancher, partager un peu du fardeau avec quelqu'un de votre entourage, ou
Ben,
vous restiez en dialogue avec vous-même?
Non, j'avais un confesseur, je me confessais, donc j'avais des prêtres. Jamais vu les fameux prêtres pédophiles. Je regrette, j'ai jamais eu le moindre incident de ce côté. Ça, c'est encore des salades. Et non, je me confiais beaucoup, les prêtres, des. Et puis alors, ben, j'avais un de très bon copain, Dantin, justement, qui est devenu prêtre, puis qui s'est marié ensuite. Alors, il était dans l'aile gauche. Après, il a été dans l'aile gauche de la CFDT de la NPE. Alors.
Emmanuel Leroy-Ladurie, nous marquons une première pause musicale. Vous venez d'écouter un extrait du Requiem de Gabriel Fauré. Emmanuel Leroy-Ladurie est aujourd'hui l'invité de votre émission Parcours devant les micros de Canal Académie, la première radio web francophone au monde. Emmanuel Leroy-Ladurie, alors nous reprenons le cours de l'évocation de cette enfance. Vos parents vous ont donc transmis une pratique de la foi chrétienne et en conservez-vous une croyance, une foi personnelle?
Ah ben, je suis pas. Au Maroc, il y a le commandeur des croyances, c'est autre chose, c'est l'islam. Moi, je suis catholique, oui, je vais à la messe le dimanche. Oui. Ça, je pas. Vous savez, j'en fais pas une affaire. Hein. Vous me le demandez, je vous le dis, mais sinon, je fais pas tellement de prosélytisme.
Et alors, pourquoi le choix, à un moment donné de votre vie, de l'histoire et de la géographie, de la recherche, en quelque sorte?
Ben, c'est plutôt par élimination, c'est-à-dire, je voulais être prêtre. Bon, je voulais être militaire, je voulais être homme d'affaires, peut-être même agriculteur. Et puis, un peu bêtement, peut-être pas bêtement, j'en sais rien, peut-être par réaction contre mon père qui avait été vichiste, quoique résistant ensuite, j'ai adhéré au Parti communiste, je crois bien que c'est au début de 1949. Pourtant, pas une bonne époque, c'était l'époque stalinienne. Enfin, c'est un âge, on n'est pas toujours très malin. Et donc, je me fermais toutes ces portes. Alors, comme j'aimais bien l'histoire, c'était un goût familial. Mon grand-père avait une très belle bibliothèque historique, même mon père un peu, et mon oncle aussi. Et donc, il me restait à être professeur d'histoire. Et c'est donc ce que j'ai fait, avec un certain goût. Mais enfin, j'ai cherché quand même à ne pas rester professeur de lycée, j'ai eu tort, j'ai eu raison, et aller à l'université.
Donc, vous avez été professeur de lycée à Montpellier de 53 à 57.
Oui.
Alors, justement, votre contact avec les classes lycéennes, est-ce que vous aviez le trac avant de rentrer en classe
Oui,
et
un
comment?
peu, un peu. Faut pas croire que c'était si. On me dit que le métier est devenu très difficile. Mais en réalité, ce qu'on appelait les classes modernes n'était pas toujours facile, assez chahuteuses. De type qui... Puis les jeunes se prenaient pour des caïds à Montpellier. Ils étaient sur la plage avec des filles et tout. Donc là, c'était pas facile. Mais en revanche, il y avait des classes classiques, disons des classes de latin, qu'on appelait des classes pilotes, où les jeunes étaient très gentils. Souvent, je me promenais en vélo avec mes élèves. J'avais tort parce qu'on n'était même pas assuré. Aujourd'hui, c'est la folie. Mais on se baladait dans la campagne autour de Montpellier, où il y a assez jolies campagnes.
Et vous leur appreniez comme ça la géographie,
Un
l'histoire,
petit
non?
peu, oui, mais enfin, par ailleurs,
Alors, quelle était justement votre conception de cet enseignement de l'histoire et de la géographie?
je me rappelle, il y avait l'instruction civique. J'ai jamais très bien compris ce que c'était. Alors, il fallait faire le conseil général. Alors, moi, je me rappelle, je leur faisais des expositions d'avions de chasse. Bon, je n'ai jamais été bien belliciste, mais enfin, pour des choses plus sérieuses, comme l'histoire, j'essayais un peu de faire l'histoire des annales, je faisais des projections avec les tableaux de la collection Skira, on avait ce qu'on appelait des épidiascopes. Et puis, je faisais un cours qui était bien reçu dans certaines classes, un peu moins bien dans l'autre. Je me rappelle avoir lu, par exemple, le récit de la bataille de Waterloo par Victor Hugo dans Les Misérables. Alors, les jeunes qui trouvaient ça ringard, Victor Hugo, c'était ridicule, il fallait être pour Baudelaire. Baudelaire, comme on dit maintenant au cinéma, ou pour Verlaine, enfin. Mais enfin, j'ai essayé de leur donner le goût de l'histoire.
Le goût de l'histoire, parce qu'on assiste
Et
souvent.
je rencontre souvent de grands vieillards qui me disent, comme ça, j'étais votre élève quand j'étais en sixième, alors je me dis que ça ne m'en rajeunit pas, quand même.
Grâce à vous, ils n'ont pas subi le gavage traditionnel des dates et des faits
Oh,
historiques.
écoutez, si les dates, si moi je suis pour les dates, c'est-à-dire que je crois l'histoire de Brodel, l'histoire des annales, c'est l'histoire à niveau supérieur, c'est comme les mathématiques supérieures par rapport à l'arithmétique. Mais si on ne sait pas que Napoléon, c'est après Louis XIV, non, on peut pas faire d'histoire. Non, moi, je suis pour une histoire événementielle. Mais, si vous voulez, si j'ose dire, je suis à la voile et à la vapeur. C'est-à-dire que je suis pour l'histoire traditionnelle, les dates, les règnes. Et puis alors, l'histoire des modernes, enfin plus modernes, celle de Brodel, celle des Sadal, l'histoire économique, l'histoire des structures, l'histoire psychologique. Et maintenant, ce que je fais dans l'histoire du climat, par exemple.
Alors justement, à quoi sert l'histoire, ce devoir de mémoire par excellence?
Je ne crois pas au devoir de mémoire.
Alors, quelle est
On n'a
votre
rien à faire.
définition
Non,
de
l'histoire, c'est
l'histoire?
l'histoire. Il faut que les gens se forment, en effet, par exemple, moi, je n'ai jamais rien écrit sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu compliqué. Ma femme a eu des problèmes. Enfin, c'est de se reconnaître que c'est une histoire très importante. Il n'y a pas besoin d'appeler ça de la mémoire. C'est de l'histoire, c'est tout. Que les gens apprennent, en effet, la Shoah ou l'Holocauste, mais aussi autre chose. Les grandes batailles, le débarquement, Stalingrad, le rôle de la Russie, la défaite française, le premier pays qui a essayé de s'opposer après la Pologne à Hitler, etc. Et puis, Louis XIV, enfin tout ça. Et puis ensuite, l'histoire économique, oui.
Est-ce que vous avez le sentiment d'une évolution au cours des siècles par rapport à la barbarie, aux droits de l'homme?
Oh, oui, quand même. C'est-à-dire que, bon, d'une part, il y a une mauvaise évolution qui est le XXe siècle à cause de la très grande puissance des armes. On commence la guerre en 14 comme si c'était avec des arcs et des flèches, l'ennui c'est que des mitrailleuses. Donc alors on se farcit 1 500 000 morts. C'était pas du tout prévu au programme. Très triste. Mais malgré tout, il y a aussi des progrès importants. Prenez des vieux pépés ou, si vous voulez, des messieurs vieux autrefois, prostate, cataracte. Hein. Bon, ça c'est c'est pas les droits de l'homme, mais c'est les droits de quelqu'un d'âgé. Bon, ben ça, on a, ce problème est résolu. Les gens sont donc... et alors, quant aux femmes, je suis pas du tout contre la natalité, mais enfin, tout de même, les femmes dans les milieux nobles ou bourgeois, avant qu'il y ait un peu de coitus interruptus ou contraception, comme elles donnaient leurs enfants à des nourrices, il n'y avait pas la stérilité temporaire qui est induite par l'allaitement. Et vous aviez souvent par les bouchers de Lyon, qui étaient déjà, avaient un enfant tous les ans pendant 15 ans. Bon, alors le monsieur, c'est peut-être pas toujours facile, mais la dame, c'est quand même un sacré métier. Sur ses 12 enfants, évidemment, 7 ou 8 mouraient. Bon, on se fait à tout. Hein. Mais enfin, c'est quand même. C'était une vie assez difficile. Et ne parlons pas de la petite vérole, de toutes sortes de maladies. Donc, à mon avis, on est globalement plus heureux, quand même moins malheureux qu'au XVIIe siècle. Par ailleurs, il y a d'autres inconvénients, justement.
Mmh. Alors, le travail de l'historien engagé dans la recherche, par exemple, comme vous l'êtes au niveau du climat, etc. Alors, cet historien, son rôle dans la société, parce que c'est un observateur privilégié, par rapport à son engagement dans son siècle, c'est un rôle spécifique.
Alors, il faut distinguer. Ben, moi, j'étais... Pendant 6 ans, j'ai dirigé la Bibliothèque nationale. Bon. Alors, l'historien que j'étais était tout à fait à sa place, puisque c'est un lieu de culture, et on ne se borne pas à y mettre un tel qui fait les discours du président, mais on met quelqu'un qui est compétent, ou qui a été dans un cabinet ministériel. Non, Dieu merci, c'est beaucoup mieux. Actuellement, M. Jadonnet fait bien son travail aussi, à la BN. Donc, ça, c'est un aspect de l'historien qui fait un travail en quelque sorte civique. Et puis, par ailleurs, alors, l'historien, je crois, ben, si vous voulez, il éclaire le passé, il joue peut-être un rôle civique, il fait comprendre aux gens un certain nombre de choses. Je vais peut-être vous donner un exemple très mince, où j'ai étudié les Plater, bon, qui est une famille suisse qui a voyagé en France au XVIe siècle. Bon. Alors, le jeune Plater, qui étudie en médecine, il est protestant, mais il s'intéresse beaucoup aux reliques. Quoique les protestants étaient contre les reliques, bon, enfin, lui est assez ouvert. Il voit la relique du bras de Saint-Lazare à Marseille, et la relique, le clou de la croix du Christ, dont on l'a fait faire à cheval, qui guérit les possédés, à Carpentras. Bon. Et puis, il voit aussi un tableau attribué à Michel-Ange, un tableau qui est toujours à la National Gallery, qui était à Narbonne, à Londres, c'est la résurrection de Lazare. Alors, le tableau attribué à Michel-Ange vaut 2000 livres tournois. Les reliques du bras de Saint-Lazare vaut 300 000 livres. Aujourd'hui, ça serait l'inverse. Celui le tableau de Michel-Ange, je ne peux pas même vous dire combien ça s'est un peu en vente. S'il y en avait un, ça vaudrait... Bon, le moindre nénuphar de Van Gogh, qui est une mode ridicule, vaut... Mais alors là, vous imaginez le prix. Autrement dit, c'est un autre monde. Et justement, il faut chercher à comprendre que ces gens vivaient dans, ne pas seulement se moquer des reliques, dira le prépuce de Jésus-Christ qui est conservé à Anvers, puis encore un autre prépuce dans une cathédrale à Nice. Non, c'est faire comprendre que pour ces gens, la relique était un lien entre le divin et l'humain, quelque chose qui s'inspirait davantage de la charité divine vis-à-vis de l'homme que, par exemple, la religion antique, où l'on adorait des monstres, des animaux monstrueux, des collines, des rochers, des bois sacrés. Vous voyez, donc il faut essayer de comprendre ce qu'est la vie religieuse, l'intensité de la sensibilité religieuse de ces gens. Ça, et peut-être c'est... ça nous fait comprendre que la laïcité n'est pas simplement ce truc pur et dur dont on nous parle aujourd'hui.
Ça, c'est le travail ethnologue de l'historien. Oui. C'est-à-dire se mettre au diapason, essayer de rentrer... Dans l'atmosphère de cette époque et un peu dans le cœur et l'âme des gens qu'il a composé.
Oui, alors autre exemple, si vous voulez, Bambouche fait ce que nous savons en Irak. Moi, je suis plutôt contre, des gens sont pour, enfin, c'est pas le problème. Mais au fond, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement ce qu'ont fait en France Louis XI, puis François Ier de la guerre d'Italie, Louis XIV dans les guerres sur la frontière nord de la France, Napoléon, n'en parlons pas, même Napoléon III avec les guerres d'Italie, etc. Ça ne s'est vraiment calmé, et encore il y a les guerres coloniales, que sous la Troisième République. Donc, nous pouvons critiquer Bush, moi je ne m'en prive pas, sans excès, bon, il ne faut pas non plus exagérer, mais nous devons comprendre qu'en réalité, il fait ce que faisaient les grandes puissances européennes, peut-être elles avaient tort, selon une autre logique qui n'est plus la nôtre. Je vais tenir un peu relativiser la chose.
les évolutions sont différentes.
Ben, c'est-à-dire que lui, il est toujours en retard d'un siècle. Mais peut-être que c'est l'intérêt des États-Unis, moi je ne sais rien.
En tant qu'historien, attaché aux dates, aux faits historiques, est-ce que vous êtes ancré dans les réalités de la vie, de votre vie, ou est-ce que vous vous envolez naturellement vers des utopies, les utopies étant les réalités peut-être de demain?
Alors, l'utopie communiste ou même socialiste, c'est quand même derrière moi maintenant. Je marchais plus là-dedans. On s'est fait avoir. Bon, ça, c'est une bonne formation de recevoir quelques coups de pied derrière. Ça, quand on voit qu'on s'est trompé, ça fait pas de mal. Mais en revanche, je crois en effet que il y a tout de même il y a une réflexion sur l'avenir en prolongeant des courbes. Il y aura en France de plus en plus d'immigrés. Il y aura une concurrence chinoise qui risque de démolir notre industrie. Il y a l'effet de serre, un réchauffement qui peut être entre 2 et 4 degrés, peut-être plus. Tout ça ne fait pas une vision tellement du progrès. Le progrès, certains progrès techniques continuent, les gens ont des téléphones mobiles, l'ordinateur, etc. Mais enfin, moi j'avais un petit ordinateur Palm, bon, mais le précédent était fait en Hongrie. Celui que j'ai maintenant est fait en Chine. Bon, ben, ça fait tout de même réfléchir. Je crois que nous sommes confrontés à des défis assez terrifiants. D'autre part, qu'est-ce que c'est que la fin? Nous allons nous réveiller dans 50 ans, mais pas moi, mais dans une France peuplée de beaucoup de très grands nombres de descendants d'immigrés maghrébins, africains, chinois et autres. Est-ce que tout d'un coup, ça ne va pas être un autre pays? Alors, il faut se poser la question. Doit-on limiter, freiner le phénomène? Ne pas se borner à des bonnes paroles comme ceux qui disent tout de suite les Turcs en Europe, même quand ça nous vient de très haut.
Des mutations.
Ben, oui, si vous voulez. J'ai un ami qui dit que l'Empire romain, un beau jour, ils se sont retrouvés dans un système wisigothique. Alors, c'est peut-être ce qui nous attend. Ce que je veux dire par là, c'est que on est amené à prolonger des courbes et à réfléchir là-dessus. On a, par exemple, en 1880, je ne sais plus, début des années 1880, Gambetta crée un ministère de l'agriculture. Qu'est-ce que c'est que le ministère de l'agriculture? C'est un ministère de la destruction de l'agriculture. Naturellement, il y a l'agriculture française très florissante, mais il y avait à l'époque 20 millions de paysans, comment reste-t-il? Avec les familles, un million, un peu plus d'un million. Est-ce que l'industrie, à son tour, française, ne va pas subir le même sort? Donc, vous voyez, réfléchissons, comparons à ce qu'était une France, certes, où il y avait beaucoup de pauvreté, il faut reconnaître, peut-être plus que maintenant, mais quand même assez, comme dirait Charles de Gaulle, sûre d'elle-même et dominatrice, a quand même une France un peu inquiète de son avenir.
Poursuivons cette courbe de réflexion avec Jean-Sébastien Barre. Nous écoutons un extrait de ses 6 suites pour violoncelle seule. Parcours reçoit aujourd'hui pour vous le créateur de l'histoire du climat, Emmanuel Leroy-Ladurie, membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques. Emmanuel Leroy-Ladurie, quelles sont les valeurs auxquelles vous êtes le plus attaché?
Elles sont relativement banales, c'est-à-dire je ne prétends pas être parfait du tout, mais enfin disons un certain nombre de valeurs morales, et puis alors la culture... Je suis un peu effrayé par la formation des jeunes actuels. Bon, on ne va pas dire de mal des médias, mais je suis un peu effrayé de voir des jeunes passer plusieurs heures par jour devant la télévision et quelques heures supplémentaires avec des jeux électroniques. Et pour moi, la formation intellectuelle de la jeunesse, c'était de faire du latin et du grec. Ça pourrait être de l'allemand, de l'arabe, du chinois, du russe. Mais c'était vraiment de se pénétrer d'une culture qui ne peut pas être la culture de Monsieur Tout-le-Monde, mais qui peut être au moins la culture d'un assez grand nombre de personnes dans l'élite. Et je repense à cette guerre de 14 où jamais les jeunes français, les jeunes allemands n'ont été mieux formés. Je parle même au primaire, en orthographe, que les jeunes qui sont partis à la guerre en 14. Et tout ça pourquoi ? Pour se massacrer les uns les autres.
Justement, en évoquant ce questionnement par rapport au sens de la vie, de ce passage sur Terre qu'il nous est donné de vivre, avec une naissance que nous n'avons pas la conscience, tout du moins, d'avoir demandé, et puis une mort de toute façon programmée à plus ou moins long terme. Selon vous, c'est quoi le sens de cette vie, de ce passage ?
Je ne sais pas s'il faut chercher un sens. Quand vous avez des animaux, espèces de poissons, de crabes qui vivent à 5000 mètres de profondeur, quel est le sens de leur vie ? Ils sont dans le noir. Ils bouffent soit des végétaux, des algues, soit d'autres animaux. C'est la vie, c'est tout. Et je ne sais pas s'ils sont satisfaits comme ça ou s'ils se posent des problèmes. Non, je crois que la vie est quelque chose qui nous est donné, qu'il faut essayer de voir faire ce qu'on est capable de faire. Si on a des enfants, des petits-enfants, les former le mieux qu'on peut, mais ne cherchons pas à donner un sens fasciste ou communiste.
Alors, on parle de vous comme l'un des historiens contemporains les plus féconds, plus d'une trentaine d'ouvrages, souvent des ouvrages, des pavés de 500, 600 pages que vous avez écrits en solo ou co-écrits. Vous n'arrêtez jamais ?
Non, c'est un peu ce que je sais faire, surtout maintenant que je suis... depuis que j'ai quitté la Bibliothèque nationale, avec sur mon pantalon la marque du pied du Premier ministre de l'époque, M. Balladur.
C'est un autre souvenir.
Depuis ce temps-là, j'ai continué à être professeur au Collège de France jusqu'en 99, je crois, avec un horaire qui n'était pas quand même écrasant. Et puis, depuis, je suis maintenant retraité en roue libre, ce qui est un privilège. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu malheureux de leur retraite. Moi, au contraire, c'est un privilège, c'est une chance. C'est comme si j'étais une sorte de CNRS de recherche scientifique, sans avoir à faire de rapport sur mon travail à la fin d'année, sinon par des publications. Donc je me suis remis à deux activités principales. L'histoire du climat, qui est quelque chose qui devient important à cause de l'effet de serre, peut-être. Et puis alors je publie avec une collègue, j'espère faire 4 ou 5 volumes, des platères.
Alors ça, ce sont les projets. Retour en arrière, tout commence avec Les paysans du Languedoc en 1966. C'était le premier livre, ça.
Oui, alors c'est ma thèse de doctorat. Donc je suis moi-même fils d'agriculteur et j'aurais peut-être dû devenir agriculteur. C'est mon frère qui devait succéder à mon père. Malheureusement, il s'est tué d'un accident d'avion. C'est quelque chose dont je suis encore assez malheureux maintenant. Et d'autre part, comme je vous ai dit, j'étais communiste à l'époque. Je ne me voyais pas devenir successeur de mon père. J'ai peut-être eu tort, c'est comme ça. Et donc j'étais professeur de lycée et je voulais quand même faire une espèce de carrière qui m'aurait plus apporté, bien que je ne dis pas de mal du professeur des lycées du tout. Et donc j'ai pris un sujet de thèse. Alors j'étais en Languedoc, ma femme était de Montpellier, et j'ai cherché un sujet, la chèvre broute là où elle est attachée, selon l'expression commune. Et il y avait effectivement de très beaux documents, des cadastres, et j'ai pu refaire l'histoire des paysans du Languedoc du 14e, 15e siècle. Au 18e, et retrouver au fond un peu le sens de la pensée de Malthus, c'est-à-dire d'une population qui se développe et qui à un moment se heurte à des obstacles, manque de nourriture, épidémie, guerre, etc. Et elle se calme, puis elle repart en avant. C'est ce que j'ai appelé des grands cycles, grands cycles agraires. Et ça a été le début de mon intérêt pour l'histoire rurale. Et c'est ce que j'ai appelé aussi par moments l'histoire immobile, c'est-à-dire que la France, dans son territoire actuel, qui n'était pas aussi grand au XIVe siècle, avait 20 millions d'habitants. chiffreront à peu près en 1328 avant la Grande Peste. Sous Louis XIV, elle a encore 20 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'après, ça redémarre. On est au 18e, on est à 28 millions à la veille de la Révolution. C'est-à-dire que ce rêve d'une croissance démographique zéro que notre siècle entretient, sans trop y arriver encore à propos du tiers-monde, ou même pour l'Amérique du Nord et autres, était réalisé sans effort, mais avec beaucoup de souffrance, à cause des famines, beaucoup des épidémies, parfois des guerres.
Alors, c'est avec l'écriture de ce premier ouvrage que vous devenez interrogatif par rapport au climat, ou c'était déjà une recherche que vous aviez mise en route.
Je faisais de l'histoire rurale. Alors, moi, combien de fois j'ai vu mon père qui s'arrachait les cheveux parce que il produisait du blé, en Normandie. La Normandie est un pays pluvieux. Alors, il coupait son blé sous la pluie, souvent. Donc, le blé était germé, un peu pourri. Puis, il fallait qu'il sèche sur le champ, en gerbe. Il n'y avait pas encore les moissonneuses-batteuses. Et il y a pas mal d'années où il pourrissait. Alors, mon pauvre père perdait de l'argent. Et donc, j'ai bien noté cette chose-là. Alors, maintenant, vous avez la moissonneuse-batteuse. Donc, avec des phares, de nuit, le Parisien râle parce que ça fait du bruit. On s'en fout. Le type qui a sa maison de campagne. Et, vous avalez votre moissonneuse-batteuse la nuit, elle a, de temps en temps, elle avale un renard, alors le renard sort de l'autre côté complètement à plat. Mais peu importe, votre récolte est rentrée en 2 jours. Et on profite du moindre rayon de soleil. Là, c'était pas pareil. Et donc, alors je me suis aperçu que les famines au XVIIe siècle, c'est ça. Mais au XIVe siècle, c'était sous nos climats, soit des grands hivers qui gelaient les semences, soit des étés pourris qui créaient des famines. Songez quand même à la famine de 1693-94, surtout famine d'été pourri, 1 300 000 morts sur 20 millions d'habitants.
Alors ensuite, vous vous tournez vers Montaillou, le village occitan.
C'est ça. Alors, je m'intéressais aux monographies de village. J'ai pas mal enseigné aux États-Unis. Pendant peut-être 2 ans, si j'additionne tous mes séjours, je finis par me débrouiller dans ce qu'on appelle la langue de Shakespeare. Et ça, avec un accent un peu ridicule, mais peu importe. Et je m'intéressais aux monographies de village. Et un jour, je suis tombé sur l'œuvre de M. Duvernoy, qui est un grand historien du catharisme. Et je me suis aperçu qu'il y avait un village et qu'on pouvait faire, en 1320, grâce à un registre d'acquisition, l'histoire d'un village dans le détail, comme si on avait l'annuaire du téléphone, les écoutes téléphoniques et tout.
C'est ça, la monographie ?
Oui, c'était une monographie. Alors bon, ça ne m'a pas fait que des amis. Certains disent que les cathares, ça n'a jamais existé, que c'était comme les trotskistes, que Staline inventait les trotskistes pour pouvoir envoyer les gens au poteau d'exécution. Enfin, il y a eu quelques cathares, et puis surtout ce village, Montaillou, que j'ai connu et qui a eu un immense succès, que je n'ai pas eu, heureusement, autant de succès que d'autres livres, parce que ça ne m'a pas fait que des amis à l'époque. Enfin, bon, c'est derrière nous.
Dans plusieurs de vos ouvrages, vous évoquez le travail, le rôle de l'historien, que ce soit le territoire de l'historien, chez Gallimard en 73, toujours chez Gallimard en 94, parmi les historiens, l'historien, le chiffre, le texte, Fayard en 97. Alors, parlez-nous justement de ce travail d'historien.
Alors, j'ai fait, si vous voulez, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu la tornade blanche, j'avais une grosse capacité de travail, encore maintenant, mais moins quand même. Et je voulais faire du quantitatif. Donc, par exemple, j'ai fait des études sur la stature. Alors, on disait, les gens sont grands dans le nord de la France, c'est des grands Ariens blonds. Dans le sud, ce sont des petits Méditerranéens, genre Morico et tout. Non, ils étaient plus grands dans le nord parce qu'ils mangeaient mieux et qu'ils allaient, les enfants allaient à l'école. Et ils étaient plus petits dans le sud. Et puis le sud, depuis, a rattrapé le nord. Donc, j'ai fait des études sur les conscrits, la taille des conscrits. Depuis Louis XIV, on avait pas mal de mensurations, jusqu'à maintenant. D'autre part, alors le climat, je l'ai fait. J'ai fait aussi des études sur les dîmes, la production agricole, avec mon ami Joseph Goy. Et donc j'ai suivi la production agricole à travers les siècles. Enfin, le fait que j'ai fait c'est sous ma direction qu'a été informatisé le catalogue de la Bibliothèque nationale. J'embêtais M. Biasini, qui était le ministre des bâtiments, le surintendant des bâtiments de Mitterrand, en lui disant que son plan pour l'architectural pour la Bibliothèque nationale était ridicule, ses 4 tours, ça ne tenait pas debout, etc. Alors il m'énervait, je l'énervais plutôt. À la fin, il m'invite à déjeuner, c'est un excellent restaurant, il me dit « Combien voulez-vous » Pourquoi je lui fais ça? Je lui dis « 100 millions de francs. » Pourquoi faire? Pour informatiser le catalogue. Alors il m'a dit « Voilà, tenez. » Et nous avons informatisé le catalogue, je n'en ai pas gardé dans ma poche, je vous rassure tout de suite. Nous avons informatisé le catalogue de la Bibliothèque nationale pour 150 000 enfants, mais c'est un véritable monument intellectuel. Et du coup, j'ai fait un peu d'histoire du livre, cette histoire quantitative du livre. Mais j'ai publié des articles à ce sujet, mais maintenant j'ai un peu arrêté, parce que d'abord il y a des gens très pointus, très savants là-dedans.
Mozart marchait-il lui aussi sur les pieds des gens ? On écoute un extrait de son Requiem. Reçoit aujourd'hui sur les ondes de Canal Académie le véritable créateur de l'histoire du climat, Emmanuel Leroy-Ladurie, élu le 24 mai 1993 dans la section Histoire et Géographie de l'Académie des sciences morales et politiques. Emmanuel Leroy-Ladurie vient de faire paraître Histoire humaine et comparée du climat, canicules et glaciers des 13e jusqu'au 18e siècle. Emmanuel Leroy-Ladurie, toujours dans notre prospection par rapport aux vos ouvrages antérieurs à ce livre, vous avez fait publier « L'amour, l'argent et la mort ». C'est un titre qui se démarque un peu des autres.
Oui, c'est-à-dire c'est une époque où je me suis occupé du folklore des pays, du folklore occitan, du folklore des pays d'oc. Alors j'ai publié... Je suis un historien de Montpellier un peu. Je suis peut-être le plus grand historien de l'arrondissement de Montpellier. Si vous voulez, on fait ce qu'on peut. Enfin, peut-être il y en a peut-être qui sont meilleurs que moi. Et donc, j'ai étudié un très beau texte, un très beau roman, une nouvelle, enfin, en occitan, enfin en langue d'Occitan, on disait à l'époque, de l'abbé Fabre. Et c'est... une histoire où, en fait, qui est reprise d'un vieux conte populaire, où la mort est un peu le parrain ou la marraine, et distribue des trésors à de jeunes voyous, du reste, dans cette histoire-là. Et dans la même veine, alors actuellement, cette année, du reste, ce texte de l'abbé Fabre est au CAPES, à l'agrégation, au CAPES d'Occitan. Et donc, on a même mis ce livre, qui est un peu oublié, je vous remercie d'y penser, à la programme bibliographique de ce concours.
Et qui est la sorcière de Jasmin ?
Alors, Jasmin, c'est le poète coiffeur d'Agen. C'est un poète qui n'est pas ridicule, un poète en occitan, disons, dans la langue d'oc d'Agen. Et il a mis en scène une jeune sorcière qui est accusée de faire tomber la grêle. Et qu'on veut absolument faire périr par le bûcher, je ne sais quoi. Puis finalement, elle est sauvée par son fiancé ou son amant ou son amoureux. Et alors, lui situe cette histoire. Jasmin, le poète Jasmin, situe cette histoire vraiment des guerres de religion. Et j'ai montré par des vieilles archives du village où ça se situe, près d'Agen, qu'en fait, c'est à la fin du XVIIe siècle. Alors, c'est une recherche qui m'a pris un peu de temps, que j'ai trouvée intéressante. Ça a même failli avoir un prix de traduction en anglais. Enfin bon. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que récemment, un opéra en occitan a été créé, je crois, à Tarbes ou à Toulouse, qui s'appelle La sorcière de Jaspin, titre qui est de moi, et où on m'a rendu hommage, on m'a invité, du reste, à venir, mais je n'ai pas pu venir, malheureusement.
Vous qui avez navigué par vos recherches, parmi tous ces gens, toutes ces populations qui ont vécu 13e, 14e, 15e, 16e, jusqu'au 18e siècle, à quelle époque est-ce que vous auriez trouvé passionnant de naître et de vivre ?
Ben, écoutez, je crois quand même que quand on vit un certain nombre d'années comme moi, l'époque actuelle n'est pas de loin, n'est pas la pire. Sinon, je crois malgré tout, à condition de ne pas naître dans les classes les plus pauvres, parce que quand même ça pouvait être assez dur. Mais le 19e siècle, c'est une belle époque avec une bourgeoisie fort cultivée, en France, des écrivains, des peintres, des villages qui sont des villages, des villes qui sont encore des villes, enfin, une architecture tout à fait honorable, une démocratie qui se cherche, une France qui gagne des guerres, malheureusement ça coûte très cher, qui a même un empire colonial.
Et un climat ? Un climat clément, le climat banal,
enfin, qui commence peut-être très vaguement à se réchauffer, enfin qui dépasse évidemment l'épisode central. Et puis surtout, les gens mangent à leur faim quand même, enfin, pas tout le monde, mais enfin, il n'y a plus de famine, enfin, on a résolu pas mal de...
Alors justement, vous écrivez dans votre ouvrage paru chez Fayard, « L'histoire humaine est comparée du climat ». Si nous avions été tentés de l'oublier, l'été 2003 serait venu nous le rappeler avec violence. Le climat joue sur la vie humaine un rôle aussi, voire plus fort, que les bouleversements géologiques, les guerres, les épidémies. Et vous nous parlez de ces interactions constantes entre ces différents phénomènes. Alors quelles sont ces interactions, en nous donnant des exemples peut-être ?
Alors je crois qu'il faut distinguer deux époques. On peut dire que jusqu'en 1860, depuis toujours, quoi, depuis le Moyen-Âge, mais je ne sais pas dire depuis la préhistoire, c'était le niveau des récoltes et aussi certaines maladies qui dépendaient du climat. Alors, sous le climat parisien, disons, c'était, je l'ai dit, hiver glacial, été pourri, hier, je me promets, je m'excuse de l'anecdote, près du métro au Gira, et je vois une jeune femme qui téléphone, d'habitude on l'entend très peu, et qui dit « Oui, je crois que nous aurons un été pourri cette année comme en 1978. » C'est superbe. Et elle avait 25-30 ans, donc elle n'a pas connu cet été. Alors j'ai vérifié, il y a bien eu un été pourri en 1978. Froid. C'était les disettes de grains. Alors, je vous ai parlé de 1694, 1 300 000 morts, le grand hiver de 1709, 600 000 morts, en plus des mortalités normales, etc. Alors, l'autre chose, à cette époque, c'était la canicule, mais beaucoup plus dangereuse que maintenant, puisqu'agissant, le niveau de l'eau baissant, l'eau pourrissait, l'eau était infecte, le niveau d'eau très bas, et dysenterie. Et vous avez quand même, en 1719, en France, à la suite d'une canicule qui a duré 2 ans, sur une population de 20 millions d'habitants, non pas 15 000 morts, comme avec le malheureux Mattei il y a quelques temps, mais 450 000 morts. C'est quand même une autre affaire. C'est-à-dire, ça aurait fait l'an dernier, ou il y a 2 ans, ça aurait fait 1 200 000 morts. Alors, on aurait vu les médias, là. Hein. Enfin, disons pas de mal des médias, puisque nous y sommes. Bien. Et alors, tout ça, c'était une des grandes réalisations du 19e siècle, aussi bien des monarchies, du reste, que de la République, du reste assez indépendant, grâce à l'augmentation de la productivité agricole, grâce au chemin de fer, à la navigation à vapeur, au libre-échange, aux possibilités d'importer du blé russe ou du blé américain, blé russe à l'époque, ça revient maintenant, il n'y a plus de famine. À partir de 1860, ça avait bien diminué, mais bon. Et nous pouvons dire que si l'on met, à part les guerres, hein, 1917, et puis surtout 42, 43, etc., les Allemands prenaient tout, et puis il y a aussi parfois de mauvais climat, on ne sait plus ce que c'est que la famine. Mais depuis 1976, on ne s'en est peut-être pas assez rendu compte, surtout depuis 1999 avec la tempête, 2003 la canicule, il semble que nous entrons, à cause du réchauffement, dans un cycle où, à nouveau, on peut souffrir du climat, mais d'une façon différente. Ça n'est plus la faim, F-A-I-M, c'est la... bon, la tempête qui crée quelques dégâts, pas énormes, faut pas exagérer. Et puis surtout, ces canicules qui vont peut-être se répéter. Alors, je sais pas, cette année, hein, je me suis amusé parce qu'on a eu une canicule, je crois, en avril, il me semble. Il y en avait une il y a 20 ou 30 ans, finalement, il n'y a pas eu de canicule d'été chaud. Je ne vais pas vous prédire qu'il n'y aura pas de canicule d'été chaud cette année, ce serait ridicule. Mais en revanche, un ami climatologiste m'a dit que la Terre est très sèche en ce moment et que la pluie a tendance à ne tient pas et qu'on risque peut-être une canicule cet été. Mais ça, ne soyons pas prophètes. Donc on est à nouveau dans une période dangereuse, peut-être.
Emmanuel Leroy-Ladurie, nous sommes bien en 2005, en finale du quaternaire, c'est bien ça?
Oui. De l'anthropocène, on dit maintenant. C'est-à-dire le moment où l'homme exerce une influence très importante sur la Terre et sur le climat.
Une influence?
Ben, par l'effet de serre, notamment. CO2.
Et cette époque de quaternaire va s'arrêter quand?
Ben, l'anthropocène, je ne sais pas, ça, elle est destinée à durer. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on se modère un peu dans nos combustions de pétrole. Enfin, heureusement, il n'y aura plus de pétrole. Heureusement, non, j'ai tort de dire ça, parce que ça serait une crise très dure.
Alors, vous dites, Emmanuel Leroy-Ladurie, le temps n'est plus où les historiens bon chic, bon genre accueillaient cette nouvelle discipline, donc la recherche, l'étude du climat, avec des sarcasmes du genre « c'est une fausse science ». Alors, bon, c'est une science à part entière. Est-ce que vous faites des émules autour de vous? Est-ce que des jeunes gens, des jeunes filles se manifestent pour vous faire part de leur intérêt par rapport à cette recherche?
Oui, c'était... Ce livre, les historiens l'ont pas mal reçu, quand ils l'ont reçu, mais a eu du succès auprès des scientifiques qui ont bien voulu dire qu'un historien ou un littéraire pouvait ne pas être aussi bête qu'on le pense généralement. Et c'est vrai que j'espère créer qu'une petite équipe, pas forcément dirigée par moi, parce que je commence à prendre de l'âge, mais enfin, se forme en particulier autour de M. Yu, qui est un jeune homme, enfin, il a 40 ans, au laboratoire de Gif-sur-Yvette. Il y a Madame Valérie Daud, qui est de ses collaboratrices, Madame Chuin à Montpellier. Et il y a des jeunes qui viennent me voir. Alors j'espère qu'on pourrait faire quelque
chose.
Alors
pour les séduire encore plus, si le professeur émérite que vous êtes, pouvez lire quelques vers de Baudelaire.
Alors c'est un poème sur l'été pourri qui peut-être il a écrit pendant un été pourri de des premières années de Napoléon III, mais ça il faudrait retrouver. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement. L'espoir vaincu pleure et l'angoisse atroce despotique plante son drapeau noir. Et je crois qu'il y a là quand même le thème du tocsin, le thème de la mortalité, les corbillards. Et évidemment, le thème des récoltes n'apparaît pas car Baudelaire est avant tout un citadin. Mais c'est une assez bonne description de ce que pouvaient ressentir les gens au moment des grands étés pourris.
Et l'espoir vaincu pleure, nous n'allons pas nous arrêter là.
Non, absolument pas.
L'espérance est là.
Oh, oui, j'espère.
Merci Emmanuel Leroy-Ladurie. Merci.